Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Happy Work édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Nathalie de Courcy, qui est la fondatrice de Accent Égal, qui travaille sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, mais surtout de la monoparentalité et des violences conjugales. Comment faire en sorte que ces sujets ne soient plus tabous et comment faire en sorte que les victimes et que les parents solos puissent bien vivre un équilibre vie privée vie professionnelle. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gaël.
Alors Nathalie, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter brièvement. Nathalie de Courcy, quelque chose qui est très intéressant quand vous m'avez envoyé votre bio, la première chose que vous dites, c'est « Je suis une femme de 48 ans et maman solo de 3 enfants ». Et effectivement, nous allons beaucoup parler de ce sujet, mais je vais vous présenter. Vous avez fait des études d'ingénieur et avez fait une carrière dans la chimie, puis dans la santé. Mais très vite, les affaires publiques vous ont attiré et vous avez travaillé à la région Île-de-France comme chargée de mission pour les commissions santé, finances et administration générale, puis à l'Assemblée nationale comme attachée parlementaire. Et en fait, grâce à ce double parcours, vous avez accédé en 2018 à un poste de responsable des affaires gouvernementales chez Janssen, où vous travaillez sur le sujet de l'égalité professionnelle. Ce sujet vous tient tant à cœur que vous allez le porter encore plus haut aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, je dis entrepreneuse, alors il paraît que ça ne se dit pas, mais j'assume, à la tête d'Accent Égal et vous accompagnez les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors vous êtes également très engagée dans la vie associative, vous faites énormément de choses, vous êtes administratrice de femmes ingénieures et d'égalité ensemble et comme membre du comité d'orientation du laboratoire de l'égalité, bref, vous êtes une femme hyper active, hyper engagée et je suis extrêmement heureux de pouvoir parler avec vous. Alors la première question est très simple Nathalie, Accent Égal, c'est quoi ?
Alors Accent Égal, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que Accent Égal va aider les entreprises à attirer, à garder et à développer les talents féminins.
Et si vous êtes lancé là-dedans, j'imagine que vous êtes sensibilisé à ce sujet tout particulièrement et que vous pensez qu'il y a un vrai énorme sujet, un vrai problème en France sur ce sujet.
Tout à fait. Je pense que je suis, j'y ai été confrontée à la fois personnellement, je pense comme beaucoup de femmes, mais également, oui, en regardant la société aujourd'hui, les entreprises manquent de talents et si elles ne les cherchent que dans une partie du vivier, elles continueront à manquer de talents. Donc je pense vraiment que pour préparer la France de 2030, il faut le faire tous les talents. Et donc avec les femmes et avec les hommes.
Et vous, un de vos sujets, c'est bien entendu la monoparentalité. Je dis bien entendu, mais non, parce qu'en fait, on en parle assez peu, la monoparentalité. Et vous savez quoi ? En réfléchissant, ça m'a fait penser à d'autres gens très engagés sur les parents aidants et sur les enfants aidants. Oui. Et finalement, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ça, entre la monoparentalité et les aidants qui finalement ont une charge mentale monstrueuse en plus et finalement, personne n'en prend soin ?
Tout à fait. Alors, je suis tout à fait de cet avis. Pour moi, une politique parentalité, c'est une politique parentalité 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est le parent de son enfant, mais on est aussi l'enfant de son parent. Donc effectivement, il y a énormément de similitudes entre les difficultés que peuvent traverser les parents solos et les aidants. Et d'ailleurs, quand je me suis exprimée pour la première fois sur ce sujet dans un autre podcast, j'ai eu des retours de salariés qui étaient proches aidants et qui m'ont dit finalement je me retrouve dans ce que vous dites sur les parents solos, même si ma situation n'est pas la même, il y a beaucoup de choses semblables et de difficultés semblables. Donc, oui, je pense vraiment que, en tout cas, ce que je veux faire avec Accent Égal, c'est vraiment aider les entreprises dans la structuration d'une politique parentalité vraiment à 360 degrés qui accompagne tous les parents, mais qui accompagne également les proches aidants et en fait toutes les problématiques liées à la parentalité et à la monoparentalité, parce que comme vous le dites, c'est un sujet qui me tient à cœur. à la fois parce que je suis moi-même maman solo et que j'élève seule mes enfants depuis 8 ans. Ils avaient 8 ans, 5 ans et 2 ans quand je me suis retrouvée seule avec eux. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir un parcours professionnel dense et à la fois être le seul pilier de la famille. Mais aussi parce que je me rends compte que dans les entreprises, finalement, mettre en place des mesures d'accompagnement innovantes, inclusives, qui vont en fait faire diminuer la pression ressentie, parce que la pression ressentie par les parents solos, elle est assez monstrueuse. Donc voilà, faire descendre un peu cette pression ressentie, eh ben c'est l'entreprise a tout à gagner en fait à faciliter le quotidien de ses salariés parce que bah, il y va déjà de sa responsabilité sociétale bien entendu, mais en termes finalement de motivation, d'engagement et donc de performance, c'est également un enjeu de compétitivité.
Alors je dois vous avouer quelque chose, Nathalie. La première fois que je vous ai rencontrée et que je connaissais votre situation, vous êtes à peu près la définition que je fais d'une héroïne. Pour être aussi parent solo, mais pas d'autant d'enfants, pour être un homme, parce que je crois que la monoparentalité est plus simple pour les hommes, et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant le premier confinement, où sont les mamans qui ont pris le relais sur l'éducation, et moins les papas. C'est assez admirable de réussir à transmettre et de décider de transmettre des choses et de faire évoluer quand on est soi-même, j'allais dire la tête sous l'eau, mais c'est comment est-ce qu'on fait quand on est parent de 3 enfants, qu'on a un boulot, qu'en plus, enfin pardon, ma chère Nathalie, vous êtes ce qu'on peut appeler également une hyperactive. Vous n'avez pas juste un travail pépère que vous commencez à 9h, vous finissez à 17h tous les jours. L'énergie, on la trouve où ? Est-ce que c'est l'entreprise qui peut aider ? Est-ce que c'est de l'organisation ? Est-ce que c'est un peu de tout ça ? Est-ce que finalement, notre système actuellement n'a pas tendance à nous empêcher d'être ces gens normaux et qu'on doit être des héros, en fait ?
Alors, merci Gaëlle, déjà. Je pense que la force, on la trouve beaucoup et par la force des choses, parce que probablement que l'entreprise n'accompagne pas suffisamment aujourd'hui, mais on la trouve avant tout en nous. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on traverse des épreuves, on trouve beaucoup de force en nous. Je pense que quand on est parent solo aussi, on trouve beaucoup de force auprès de ses enfants, en fait, parce que on est le seul sur lequel ils peuvent compter. Et donc ça donne énormément de force et d'énergie, parce que il faut assumer plus de responsabilités et voilà, et pour eux il faut tenir le cap. Donc ça donne énormément de force et d'énergie, en tout cas moi ça m'en a donné beaucoup. Ensuite oui, je pense que longtemps, alors je jette la pierre à personne, parce que longtemps j'ai caché en fait les difficultés que je traversais. Et je voulais surtout pas que le fait d'être parent ait un impact en fait sur
votre carrière, bien sûr,
sur ma carrière, sur ma vie professionnelle. Donc il fallait pas trop que je en faire état, ou en tout cas il fallait pas que ça se ressente, que ça se voit, etc. Je pense au contraire, aujourd'hui en tout cas avec le recul, je pense qu'il faut parler, parce que la personne qui est en face de vous, quelle que soit la difficulté que vous traversez, elle ne peut pas deviner ce que vous traversez. Bien donc sûr. Tant qu'on ne parle pas, on ne peut pas être aidé. Donc moi je suis maintenant d'avis de dire aux femmes, voilà, il n'y a pas de honte à avoir une difficulté, il n'y a pas de honte à aller mal. Chacun d'entre nous, au cours de sa vie, traverse des épreuves, connaît des difficultés. Il n'y a aucune honte à cela. Et finalement, le dire, ça peut permettre à la fois de se sentir aussi plus aligné, en tout cas mieux dans son discours, dans son authenticité, et puis surtout ça permet à la personne en face de vous accompagner, de vous aider.
Bien sûr, mais je vais même aller plus loin dans ce que vous dites, Nathalie. Il n'y a pas de honte à être parent. Je vais vous raconter une anecdote. J'espère que vous êtes assise, parce que vous allez tomber. Oui. C'est quelque chose qui m'est arrivé. J'étais à l'époque, je travaillais chez Canal+, et j'étais jeune papa, et dans ma négociation salariale, j'étais cadre dirigeant, 2 à 3 fois par semaine, j'allais chercher, à l'époque je n'avais qu'un fils, à l'école, donc je partais à 17h. Donc j'ai eu le droit, je ne sais combien de fois, tu prends ton après-midi, mais une fois, il y a un homme qui vient me voir et qui fait « mais je remarque que tu pars très souvent à 17h, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui explique sa réponse « mais dis donc, t'as pas une bonne femme qui peut faire ça ?» Ouais. Et en fait, il y a un vrai problème culturel et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais la gestion des enfants quand on travaille, c'est admis intellectuellement, sociétalement, inconsciemment peut-être, que ce sont les femmes qui doivent s'en occuper et qu'il y a un énorme travail à faire pour changer ça. Non, je ne suis pas un gros loser si je prends mon congé paternité. Non, je ne suis pas une feignasse si je vais chercher mes enfants à l'école. Non, ce n'est pas une obligation pour moi d'aller chercher les enfants si je suis une femme. Non, je n'ai pas à m'excuser d'avoir des enfants parce que globalement, nous avons tous des papas et des mamans qui sont occupés de nous. Est-ce que c'est pas la plus grande difficulté, le côté culturel ?
Tout à fait, tout à fait. Et le fait aussi que ça soit peut-être plus difficile pour un homme de dire je vais partir plus tôt parce que je vais chercher mon enfant à l'école, parce que ce n'est pas la représentation culturelle que l'on a.
Plus difficile, Nathalie, je me permets de vous interrompre, c'est pas plus difficile. C'est vraiment une discussion dans le couple, un moment d'assumer et de mettre les priorités
oui,
là où elles doivent
être. Je ne sais pas par rapport à son employeur. Moi, je rebondis sur l'anecdote que vous racontez parce que j'en ai entendu une aussi qui m'a énormément frappée d'un homme qui justement. Qui n'était pas parent solo, mais sa femme allait chercher sa fille trois fois par semaine à l'école. Donc les deux autres jours, il voulait y aller. Et il n'osait pas dire à son employeur, je pars plus tôt pour aller chercher ma fille à l'école. Donc il s'est inventé un Ironman, extrêmement sportif de haut niveau, deux jours par semaine. De telle sorte que son boss lui a dit, mais c'est génial, tu es un héros, mais bien sûr, va t'entraîner, on est tellement fiers de toi. Comme s'il était finalement, il y avait de quoi être fier d'être un sportif de haut niveau. Par contre, être papa, c'était pas la même fierté.
Mais comment vous changez ça, Nathalie, avec Accent Égal? C'est ça qui me. Parce que c'est une montagne à laquelle vous vous attaquez.
Oui, alors je pense qu'une politique parentalité, elle contribue vraiment à faire évoluer les mentalités. Et on le voit, hein, le congé second parent passé à 28 jours, c'est une évolution également qui va permettre aux hommes de s'impliquer davantage. Moi, je pense vraiment qu'une vraie politique parentalité, avec des mesures d'accompagnement qui soient innovantes, qui soient inclusives pour tous les types de parentalité, d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça va, de la même manière que ça va favoriser le développement professionnel des femmes, ça va également favoriser l'implication des hommes auprès de leurs enfants. Donc c'est plus d'égalité à la maison et plus d'égalité au travail, parce que finalement, ce que l'on dit, c'est que l'un ne va pas sans l'autre.
Mais concrètement, vous, ce que vous faites sont des sortes d'analyses d'une entreprise, vous leur donnez des conseils, vous faites des formations. Très concrètement, imaginons, je suis DRH et dans mon entreprise, je m'aperçois que on parle pas trop de la parentalité et je souhaite que ça soit intégré fondamentalement. Parce qu'on parle de plus en plus d'égalité femmes-hommes, on parle de plus en plus d'équilibre entre la vie privée et la vie pro. Et fondamentalement, votre action peut être un atout aussi pour fidéliser les salariés dans une période où on parle de grandes démissions, ce genre de choses. Donc on peut avoir un intérêt, même, c'est très cynique ce que je vais vous dire, mais fondamentalement, une maman ou un papa ou son entreprise s'impliquerait là-dedans, je vais me dire, c'est vachement chouette, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs? Mais comment vous faites concrètement?
Alors effectivement, Accent Égal propose un diagnostic sur toutes les thématiques égalité entre les femmes et les hommes, mais donc notamment dans ce cas précis, ce serait un diagnostic de la politique parentalité ou en tout cas des mesures qui sont prises en faveur des parents salariés, pour fixer ensuite des objectifs clairs à atteindre et ensuite proposer des actions innovantes, concrètes, qui puissent être testées, qui puissent être évaluées, qui puissent être ancrées dans la culture d'entreprise. Il y a souvent des choses qui sont faites, mais un peu par-ci, par-là, donner une cohérence à tout ça, peut-être par rapport aux actions qui marchent, en ajouter des actions complémentaires qui peuvent véritablement apporter un plus à la politique globale ou corriger des actions qui finalement seraient moins efficace que ce que l'on espérait. Voilà, c'est vraiment mettre à plat ce qui est fait, ce qui peut être fait et comment on crée une véritable politique parentalité 360 degrés qui accompagne tous les parents. Parce qu'en fait, on parlait beaucoup de monoparentalité, mais tout ce qu'on pourra faire pour ce cas que je qualifierais un peu d'extrême, en fait, de la parentalité, tout ce qu'on pourra faire pour ces parents solos qui mènent vraiment une vie sans répit, ça sera également bénéfique à l'ensemble des parents et ça sera bénéfique à l'ensemble des salariés, puisqu'on parle, tu vous le disais tout à l'heure, de conciliation, en fait, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, de meilleur équilibre et l'équilibre, c'est quoi? C'est une source de bien-être, et le bien-être est facteur d'engagement, de motivation. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, on fidélise des talents, on les attire aussi par une belle politique de parentalité, et on permet aux salariés parents de développer également leur potentiel, leur leadership, leur carrière. Donc, on attire, on garde et on développe les talents grâce à une politique parentalité.
Mais en fait, il y a un mot-clé auquel je n'avais pas pensé, mais qui revient très souvent, c'est la notion de culpabilité. L'entreprise ne doit pas culpabiliser sur la parentalité, mais si j'ai bien compris, vous vous occupez également des violences conjugales, où là, on rentre vraiment encore plus dans l'intime, mais je n'ose à peine imaginer comment on doit vivre ces femmes, beaucoup plus rarement les hommes. Parce qu'à chaque fois que je dis les violences contre les femmes, il y a toujours un gros macho qui me dit « Oui, mais ça existe aussi contre les hommes. » Oui, ok, mais statistiquement, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Je ferme la parenthèse. Ça doit être absolument terrible d'aller travailler. Et là, le sentiment de culpabilité doit être très dur. Et libérer la parole sur ce sujet, ça doit être encore plus difficile, Nathalie.
C'est évidemment difficile de libérer la parole, surtout sur des sujets qu'on, comme vous le disiez, longtemps été considérés comme faisant partie de la sphère intime, trop intime pour entrer en tout cas dans la sphère de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que les choses ont vraiment changé. Depuis 2017, ce sujet a été pris à bras-le-corps par le gouvernement. En 4 ans, il y a 4 lois qui ont permis de renforcer la protection des femmes victimes de violences. Donc, la libération de la parole, elle a été déclenchée déjà par cet engagement gouvernemental. Et je remercie Marlène Schiappa qui a vraiment œuvré à ce que les choses avancent et bougent. Je pense effectivement que c'est un enjeu de société, donc c'est notre responsabilité à tous. Donc le gouvernement a fait beaucoup, mais ce n'est pas un sujet qui peut s'arrêter à la porte des entreprises. Je pense qu'on est tous concernés et donc on doit tous participer à cette lutte. Alors effectivement, c'est très compliqué. On a vu que c'était parfois compliqué de parler de simples difficultés du quotidien. Donc parler du fait qu'on soit victime de violences conjugales, ça l'est évidemment encore plus. Je pense que la clé, c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance que les femmes, puisque c'est plus souvent des femmes, que les femmes ne se sentent pas jugées, ne se sentent pas, regardées comme voilà, ça arrive à tout le monde. Donc le climat de confiance, il est essentiel. Et pour ça, il faut sensibiliser et il faut former les managers à l'écoute active, à l'écoute bienveillante, à l'écoute sécurisante. Ça ne s'invente pas.
Hein. C'est fondamental. Bien sûr.
C'est fondamental pour détecter en fait les signaux faibles, parce qu'une femme ne va pas forcément effectivement parler. Il y a un sentiment de honte qui est très fort dans ces situations.
Mais vous savez, je dis souvent aux managers quelque chose de très simple, c'est chaque matin en présentiel, si vous êtes en présentiel, regardez dans les yeux vos collaborateurs et vos collaboratrices, demandez-leur si ça va et attendez la réponse.
Exactement.
Attendez la réponse, intéressez-vous aux gens. Enfin, je vais faire très bisounours, mais j'assume totalement, Nathalie. Être manager, c'est aussi aimer ses équipes, au sens le plus noble du terme. Et malheureusement, en entreprise, oui, ça manque un peu de formation. Donc, vous formez également à ça, sur l'écoute active, sur le fait d'être attentif aux signaux faibles.
Exactement, parce que effectivement, demander comment ça va, c'est évidemment une question qui devrait, même dans tous les autres cas d'ailleurs, poser, mais en dehors de ça, un changement d'attitude, quelqu'un qui s'énerve en réunion alors que c'est pas dans son habitude, quelqu'un, voilà, il y a des signaux faibles, il y a des choses qui peuvent alerter, et voilà, le fait d'être formé à cette écoute active et bienveillante, c'est essentiel pour détecter les situations de violence conjugale.
Alors je vais rebondir sur ce que vous dites en vous livrant un scoop. Est-ce que vous êtes prête à avoir un scoop? Non, parce que il se trouve que j'ai une amie qui est victime de harcèlement moral, mais d'une violence, je ne pouvais même pas imaginer que ça existait à ce point-là, même si sur mon blog, je reçois beaucoup de témoignages. Et j'ai donc lancé, hier en fin d'après-midi, un sondage sur LinkedIn qui a déjà reçu 3399 votes. Je vais vous livrer la question, les premiers résultats, qui ne sont pas définitifs, mais j'aimerais votre réaction. Donc la question était la suivante. Durant votre carrière, vous est-il déjà arrivé de vous faire harceler moralement ou sexuellement par votre manager ? Figurez-vous que seulement 32% ont répondu non, jamais. Oui sexuellement, 3%. Oui moralement, 53%. Oui les deux, 12%. On a un vrai problème de management en France.
Non. Bah, ces résultats font peur, effectivement.
Ah, mais je rigole pas, j'en ai des frissons en regardant le résultat, en me disant, mais ce n'est pas possible. Donc j'imagine si on est parent solo, que c'est compliqué, qu'on subit des violences dans son foyer, si en plus mon manager me harcèle moralement, enfin, comment je m'en sors, quoi.
Ouais.
Et c'est là où je voudrais dire, et c'est vrai que ça a évolué, et on ne va pas faire la publicité du gouvernement, parce que les auditeurs le savent, je ne suis pas militant, mais si, ils savent que je suis assez fan de Marlène Schiappa, ça je l'assume totalement. Mais cela étant dit, cette amie, je l'ai poussée à aller faire une main courante, et elle m'a dit qu'elle a été reçue par les gendarmes de façon extraordinaire. Et c'est même les gendarmes qui ont dit, c'est pas une main courante que vous devriez poser, c'est porter plainte. Donc il y a vraiment quand même... faut pas hésiter. Est-ce que c'est pas aussi un des messages que vous voudriez faire passer dans cet épisode sur les parents solos ou les personnes victimes de violences conjugales, d'en parler et de pas se renfermer, de pas avoir honte, de libérer déjà sa propre parole en premier? Est-ce que c'est pas le début?
Mais c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune honte à traverser une épreuve difficile. On en traverse tous dans notre vie, que ce soit la maladie, que ce soit les violences, que ce soit des situations familiales compliquées, etc. On est des parents vieillissants et en perte d'autonomie. On traverse tous des moments compliqués. Il n'y a aucune honte à l'exprimer. Il y a, au contraire, je trouve, une certaine forme d'authenticité à dire qui on est vraiment. Et encore une fois, on ne peut pas demander à la personne qui est en face de vous de deviner les difficultés que vous traversez. Donc oui, parler et parallèlement à ça, effectivement, il faut que les personnes soient capables en face d'écouter et d'être formées, d'être sensibilisées pour recevoir cette parole.
D'où l'importance de votre action, de sensibiliser les entreprises et de faire en sorte que les managers aient une écoute active et attentive. Ouais. Mon avant-dernière question, Nathalie, est-ce que vous êtes optimiste sur ces combats-là? Je connais la réponse, parce que vous ayant croisé, j'ai l'impression qu'on vous couperait les jambes, on vous assommerait, vous battriez encore en y croyant, mais j'aimerais quand même votre réponse. Est-ce que vous voyez des changements? Est-ce que vous dites, ouais, ça vaut le coup parce que ça avance?
Oui, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que, comme vous le disiez sur la façon dont votre ami a été reçu, il y a eu un renforcement très net de la formation des professionnels, que ce soit magistrats, les forces de l'ordre. Beaucoup de choses ont été faites sur le dépôt de plainte hors commissariat, qui me paraît une telle évidence. Beaucoup de choses sont faites. Les entreprises commencent à s'emparer du sujet. Sur la monoparentalité, certaines entreprises font des choses vraiment très bien et s'engagent véritablement. Sur le sujet des violences conjugales, c'est peut-être plus sensible, mais les choses bougent. Oui, j'ai le sentiment que de toute façon, on est dans un contexte où il faut absolument pouvoir garder ses talents. Et pour ça, il faut bien les traiter. Faut les aimer, comme vous dites.
Voilà. J'aime toujours à rappeler cette phrase de Richard Branson qui date de, je pense, 20 ou 25 ans. Chères entreprises, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. C'est tellement évident, mais c'est comme ça. Alors j'espère que ce n'est pas la citation ou le mantra que vous avez choisi, puisque nous arrivons à la dernière question, ma chère Nathalie. Quel est votre mantra ou votre citation favorite ?
Alors c'est plutôt une question, enfin mon mantra c'est une question que je me pose très régulièrement.
Okay.
Pour me booster, pour aller de l'avant, en fait. Régulièrement, je me dis, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais?
Oui,
et finalement, cette question me force à regarder mes peurs d'un peu plus près, à les affronter et à me dire finalement quelles sont celles qui sont peut-être surmontables, quelles sont celles qui vont faire en sorte que je vais davantage peut-être me préparer pour les contourner. Et finalement, on ose davantage quand on se pose cette question régulièrement.
C'est très vrai. Je parle très souvent de lutter contre ses peurs et d'essayer de rationaliser nos peurs et de les regarder peut-être moins avec nos émotions et plus avec notre cerveau et de poser sur le papier, mais... Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? C'est très juste. Ben, écoutez, Nathalie, merci beaucoup. Merci pour votre énergie. Merci pour vos combats. Je vais juste conclure en disant c'est terrible à dire. Enfin, terrible. Soyons optimistes parce qu'effectivement, dans cette période où recruter est de plus en plus compliqué, occupons-nous de l'humain. Et vous occupez formidablement de l'humain. Et en cela, je vous remercie mille fois, Nathalie. Je mettrai en descriptif de l'épisode des coordonnées, des sites web, absolument tout ce que Nathalie voudra me partager. Ma chère Nathalie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
À très bientôt, Gaëlle. Au revoir.